Malice
Blah.
crotte.
Hein?
Blah.
Comment cela?
22 mars 2021, chère Barbara Monzetti.
Barbara en grec, ce n'est pas un féminin, malgré tous les A. C'est un neutre pluriel, barbare, substantif ou adjectif, comme on veut. Les barbares, ceux qui disent bla bla bla, ceux qu'on ne comprend pas quand ils parlent. Une onomatopée pour dire qu'ils font du bruit. Comme berbère, babil, babel ou borborygme.
Un mot passionnant puisqu'il dit « Voilà, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas, c'est de l'ordre du signifiant et on ne sait pas quoi en faire. »
Barbara Cassin, « Le bonheur, sa dent douce à la mort. » Paris Fayard, 2020, page 69-70.
F-L-E. Ouais. F-L-E.
F-L-E?
Je pense que flé.
Reading out loud in my language.
Flé.
F-L-E.
Flé.
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 Je vois pas du tout hein, qu'est-ce que ça veut dire.
Hein. Et ça peut aussi être lu comme un acronyme F-L-E.
F-L-E, oui. Hein?
Ah, bah moi, c'est pas un mot. Hein. Moi, j'ai les lettres de l'alphabet F-L-E.
Pour ma part, je propose d'envisager le FLE moins comme l'apprentissage du français langue étrangère que comme une occasion de mettre en partage un français langue étranger.
Moi je lis la flé, moi je lis pas ça flé, flé, il y aurait un accent sur le.
J'aimerais montrer qu'il existe deux attitudes radicalement opposées à l'égard de ces autres français. Ou bien on considère qu'il existe une langue française dont les autres français sont des émanations, des dérivations, des variantes ou des variétés. Ou bien on part de toutes ces formes existantes pour montrer que la langue n'est rien d'autre qu'une espèce de moyenne. Une idée régulatrice, qui n'a pas d'existence en dehors de cette multiplicité. C'est la perspective de l'imaginaire hétérolingue.
La langue standard, ou en abrégé le standard, est la variété de langue dans laquelle tous les membres d'une communauté linguistique acceptent de se reconnaître. Car la communauté linguistique ne peut être définie comme celle des usagers qui pratiqueraient la même variété. À ce compte, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, l'agriculteur du Lot, le fonctionnaire wallon et l'étudiant québécois ne seraient pas membres de la communauté des francophones, les différences entre les variétés dont ils usent étant importantes. Ce qu'ils ont en commun, c'est de pouvoir se reporter à un même modèle idéalisé de langue qu'ils nomment le français. Jean-Marie Klickenberg, des langues romanes, Bruxelles, Ducolo, 1999.
Le plus souvent, c'est la première attitude qui prévaut. Faire des cartes de France qui montrent qu'on dit « pain au chocolat ici » et « chocolatine là » ou « sac ici » et « poche là-bas » reconduit en définitive la représentation d'une langue, une et indivisible, comme la République, avec des exceptions qui confirment la règle. C'est amusant, marginal, anecdotique, pas fondamentalement troublant. Ajouter une variété A plus une variété B plus une variété C équivaut à faire une addition qui n'inquiète pas le résultat, au contraire même. La somme peut grossir et grandir dans l'opération. C'est l'attitude d'une francophonie officielle, qui voit la langue s'enrichir d'apports multiples, avec de solides garanties comme les dictionnaires, l'école ou l'académie, pour veiller au grain.
Il y a donc des papous papa à pou papa, des papous papa à pou papa papa. Des papous papa pas à pou papa.
Le modèle est celui de la centralisation, avec le français comme le cœur ou le noyau du soleil, et des rayons qui partent de lui en toutes directions. Il en va de même en ce qui concerne la diversité et la différence. Reconnaître la première n'a pas la puissance ni les mêmes implications que revendiquer la seconde. La diversité n'a jamais inquiété aucune identité, puisqu'on peut très bien tolérer l'existence, dehors, d'autres manières d'être ou de dire qui ne nous concernent pas, ou qui nous enrichissent, sans nous sortir du confort de la norme établie. Au contraire, l'enjeu de la différence consiste à laisser son propre être, son propre dire, ne plus être si propre, si sûr, si fermé. Les variétés ne peuvent plus alors être considérées comme des appendices exotiques d'un centre stable. C'est une révolution du regard, un retournement radical qui fait basculer dans l'imaginaire hétérolingue.
Il n'y a donc pas deux sortes de langues, mais deux traitements possibles d'une même langue. Tantôt l'on traite les variables de manière à en extraire des constantes et des rapports constants, tantôt de manière à les mettre en état de variation continue.
Constante ne s'oppose pas à variable, C'est un traitement de la variable qui s'oppose à l'autre traitement, celui de la variation continue. Majeur et mineur ne qualifient pas deux langues, mais deux usages ou fonctions de la langue.
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Capitalisme et schizophrénie, Paris, édition de minuit, 1980, page 130.
Du français langue étrangère au français langue étranger, même pas besoin de changer de sigle. Et c'est précisément ce trouble qui m'importe. Il s'agit d'inquiéter une certitude, celle de savoir à coup sûr où passe la frontière entre soi et l'autre, le familier, l'étrangeté, le propre et... quoi au juste, le sale. Aucune frontière n'existe jamais comme un fait. S'il arrive qu'une frontière soit identifiée par et avec un cours d'eau, une montagne ou tout autre élément naturel, elle n'est pourtant jamais une simple donnée, c'est toujours une action. Établir une frontière, c'est créer et maintenir une séparation qui ne préexistait pas et qui n'existerait pas sans ce travail. Il arrive qu'une telle frontière se matérialise dans la marge d'un cahier d'écolier, portant en rouge l'inscription « Ceci n'est pas du français ». Et il ne s'agit jamais d'une vérité de fait, mais bien d'un geste d'exclusion.
En français langue étranger, la langue, ça n'existe pas, sans les actes de discours des sujets parlants.
La désignation de français langue étrangère me semble reconduire cette frontière entre langue à soi et langue des autres, sans jamais tenir compte, ni prendre soin des différences qui peuplent, et même qui constituent chacune de ces langues de l'intérieur.
Comment vous diriez en anglais « Je n'ai pas le moindre souvenir d'une première langue »
I don't have...
Quand on dit français langue étrangère, ce n'est pas la langue, mais les personnes qui ne la parlent pas qui sont étrangères. La question la plus fréquemment posée à qui arrive en cours de FLE, c'est « Tu viens d'où, toi ?» Et K, A ou M de répéter, comme à la police, comme à la préfecture, comme à l'OFPRA, d'Afghanistan, du Mali, de Syrie. Je rêve du jour où K, A ou M répondra dans n'importe quelle langue. Je viens d'à côté, je vis à deux rues d'ici. Des fois, c'est ce que je réponds moi-même, pour donner l'exemple, mais ça ne produit évidemment pas du tout le même effet. Cette manière de faire glisser un adjectif qualificatif des personnes à la langue est redoutablement efficace pour produire et maintenir l'illusion que cette dernière existe. On pourra bien rétorquer qu'il existe tout de même bel et bien des langues étrangères. Puisqu'on ne se comprend pas, c'est exact, et il ne s'agit pas de nier les différences. Au contraire, regardons-y de plus près. On s'aperçoit bien vite que ce n'est pas parce qu'une langue est étrangère qu'on ne la comprend pas, mais parce qu'on ne la comprend pas qu'on l'a dite étrangère. L'expression dépréciative « c'est du chinois » est emblématique. Tout ce qui est hors de ma compréhension est étiqueté comme venant d'ailleurs, et même de très loin, sans autre forme de procès ni d'identification.
Tu sais comment on dit « être » en finnois ?
Non, je ne sais pas, je ne parle pas finnois.
Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit « holla ».
Chapitre 2.
Jérôme et la géographie.
Depuis l'invention de la grammaire,
c'est qui ?
Les exemples qui y figurent pour illustrer les règles.
Bonjour,
ont été fabriqués.
Bonjour, monsieur.
Pour refléter la norme.
Salut, Jérôme.
Et non la façon de parler réelle des locuteurs et locutrices.
Et j'ai fini ma carte de géographie.
De façon similaire, il suffit d'écouter un manuel d'apprentissage du français.
Où est-ce que tu vas ?
Pour entendre à quel point la langue dont il s'agit ne ressemble que de loin à celle que l'on parle dans la rue ou entre amis, en famille ou en travail.
Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme ?
Pour travailler la géographie.
D'ailleurs, on ne parle pas non plus de la même manière dans chacune de ces situations.
Ah bon ?
Aucun dictionnaire, aucune grammaire n'est un réservoir où la langue serait disponible comme l'eau quand on ouvre un robinet. Ces sommes, aussi impressionnantes soient-elles, sont elles-mêmes des actes de discours.
Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays.
La distinction entre la langue et les actes de discours...
Tu vois, moi, c'est le contraire.
...pourrait sembler ne relever que d'un débat de spécialistes, sauf que ses conséquences sont importantes et quotidiennes. Précisément parce qu'elles impliquent les existences concrètes, sociales, politiques et matérielles des sujets parlants.
On peut ne pas parler d'autre langue que la sienne. C'est plutôt la manière de parler sa propre langue, de la parler fermée ou ouverte. Ce n'est pas une question de science, de connaissance des langues, c'est une question d'imaginaire des langues. Édouard Glissant, L'imaginaire des langues, entretien avec Lise Gauvin, Paris, Gallimard, 2010, pages 27 et 28.
Passer de la langue au discours, rappeler qu'elle n'existe pas sans lui, c'est donc insister sur la place et l'importance du sujet parlant. Ce qui compte alors, ce n'est pas d'avoir une même langue en partage, mais d'outiller des vies dans lesquelles un chemin de parole continuera de se frayer le passage.
En français langue étranger, on se parle pour se comprendre et donc pouvoir n'être pas d'accord.
Mais non, pas du tout.
Être pas d'accord, c'est fort quand même, mais...
C'est pas que j'ai pas compris ou c'est pas une nuance près. C'est... Non, en fait, non.
On n'a pas forcément envie.
Non. Si l'illusion de la langue est aussi tenace, ce n'est pas seulement parce que nous en faisons un marqueur identitaire passant le long d'une frontière entre l'étranger et soi. C'est aussi pour continuer à croire à un autre mirage. Celui qui prétend que la communication est une opération linéaire et transparente entre un émetteur et un destinataire.
Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères.
Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bon prof.
Dans ce modèle, il faut supposer un médium neutre, susceptible de véhiculer le message sans friction, sans bruit. Loin de s'en désoler, il faut dénoncer ce que l'idéologie de la transparence communicationnelle véhicule de totalitaire et revendiquer un droit à l'opacité. Même dans son emploi le plus strictement utilitaire, vos papiers s'il vous plaît. La langue fait autre chose qu'assurer un transfert d'informations. Elle établit une relation avec tout ce que celle-ci comporte de troubles, nourrit de potentiel, promet de changement. Ce n'est donc pas pour se comprendre que nous apprenons ensemble à créer une langue commune. Et ce n'est pas parce que nous y serons parvenus que nous tomberons joyeusement d'accord avec tout ce que l'autre dit. Je dirais même que c'est pour pouvoir ne pas être d'accord qu'il importe de partager suffisamment une même langue. Et à partir de là, il nous incombe de forger un horizon qui, à l'avenir, pourra peut-être nous réunir, ou pas.
Là, je demanderai à quelqu'un, est-ce que vous avez un ticket de métro ?
Avec la stabilité de la langue, c'est la posture d'autorité professorale qui vacille. Plutôt que de détenir un savoir à transmettre, on met en commun des pratiques.
Ou deux, quoi, si c'est possible.
And do you have any clue how you would ask for a ticket, a metro ticket in French?
Je veux un ticket.
Il y a tellement de demandes pour des cours de français qu'il est difficile de se passer du terme. Mais j'aurais aussi envie de remplacer celui-là, pour dire plutôt atelier.
Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un ticket pour prendre le métro?
Non, j'ai flou un ticket. J'ai plus un ticket.
Ça, jamais, moi, je sais pas.
Non, moi, je demande pas pour le ticket de métro, mais sinon, je dis, est-ce que je pourrais avoir un ticket de métro, je pense?
Bah, est-ce que vous avez un ticket de métro?
Bah, j'ai dit, j'ai besoin d'un ticket, je lui passe l'argent. Voilà, là, comme ça, il me donne le ticket que je veux.
J'explique depuis une heure les différentes manières de poser une question en utilisant « est-ce que », en inversant le sujet et le verbe, en faisant monter la voix. C voudrait savoir comment demander un ticket de métro et je lui réponds avec toute ma science « est-ce que je pourrais avoir un ticket de métro ? Puis-je avoir un ticket de métro ?» Il n'est pas du tout convaincu. C'est finalement G qui trouve la réponse satisfaisante. Donne-moi un ticket de métro, s'il te plaît.
Ticket de transport, c'est tout.
Il a raison, évidemment. Et nous rions ensemble.
C'est trop facile, elle va comprendre direct.
Les postures se
alors
déplacent.
Pourquoi je casse ma tête pour trop parler?
J'apprends. Ce n'est pas d'un maître dont nous avons
c'est
besoin.
Comme ça, non?
Mais d'une figure intermédiaire.
Je crois. Hein.
Qui soutienne chaque apprentissage comme un processus de création. Car c'est bien ce dont il s'agit, et même doublement. Toute formation peut être conçue, et surtout éprouvée, en tant qu'elle fait advenir quelque chose, et quelqu'un qui ne préexistait pas. D'une part. Et d'autre part, dans le cas spécifique de l'apprentissage d'une langue, c'est cette dernière qui se trouve recréée de façon inédite.
J'étrange. Tu étrange.
Par cette nouvelle manière d'être articulée,
on étrange.
Transformée,
vous étrangez.
Menée ailleurs,
nous étrangeons.
Et autrement.
Rester, étranger.
Pour résumer,
infinir.
Je dirais que passer du français langue étrangère au français langue étranger, c'est parler en langue, depuis n'importe quel idiome, en jouer ou s'en inquiéter, mais surtout y bricoler un nous. Qui soit plus véritablement inclusif. Accepter l'épreuve des métamorphoses perpétuelles et aussi l'exigence d'expliciter d'où l'on parle.
Frau Klug, citée par Kafka le 6 janvier 1912, « Voyez-vous, je parle toutes les langues, mais en yiddish. »
Abdel Fattah Kilito, « Je parle toutes les langues, mais en arabe. » Arles, Actes Sud, 2008.